même, Daniel? D'accord, merci. Donc, comme promis, j'aimerais que nous regardions dans les semaines suivantes la prière, la fameuse prière du Notre Père. Alors, on va regarder d'abord dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6. C'est dans le sermon sur la montagne et les disciples les plus proches demandent à Jésus de leur enseigner la prière. Et en Matthieu 6, à partir du verset 9, il leur répond. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde aussi dans Luc, puisque cette prière se trouve dans Luc, légèrement différente, mais Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Voilà, ici c'est plus court, plus bref, et c'est dans un autre contexte. Mais cette prière, eh bien, est très connue, évidemment. Elle est répétée par des centaines de milliers de chrétiens, de la chrétienté. Parfois, elle est répétée avec le « Je vous salue Marie » aussi, ce qui donne le rosaire, où certains prient 50 fois, les mêmes prières dans la journée. Et il y en a qui le répètent ensemble, il y en a qui le font tout seul, il y en a qui ne prient que cela, c'est-à-dire ils ne prient jamais autre chose que cette prière-là. Et souvent, on ne saisit pas très bien ce que dit cette prière. Et même ceux qui connaissent la Bible ou qui connaissent bien la Bible ou la prière, des fois, on est surpris qu'on ne comprend pas, on ne saurait pas bien expliquer, par exemple, quand il dit « que ton nom soit sanctifié ». C'est une expression un petit peu obscure, un peu nébuleuse. Qu'est-ce que ça veut dire « que ton nom soit sanctifié » Et donc, on essaiera de voir tout cela. Jésus a dit en Matthieu 6 « voici comment vous devez prier ». Il n'a pas dit « voici exactement, mot pour mot, ce que vous devez prier ». Il a dit « voici comment ». Et donc, c'est un modèle, mais ce n'est pas la chose qu'il faut répéter continuellement avec chaque virgule à sa place. Ce n'est pas un texte, au sens d'une prière sacrée, qui, lorsque vous la répétez, a un effet spectaculaire, un effet d'exaucement. Non, c'est un modèle. Mais en ce sens, elle est très utile et très importante, évidemment. Mais en tant que modèle... D'ailleurs, Jésus avait bien averti les disciples juste avant Matthieu 6, verset 7. Il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, chez les païens, il y a cette tendance, dans la religion païenne, il y avait cette tendance de répéter. En Inde, il y a notamment ce qu'on appelle les moulins à prière. Dans ces pays-là, ils ont un bâton avec une sorte de plaque en bois qui tourne et qui fait du bruit. Ça fait un bruit vraiment strident. Et à chaque tour, c'est une prière parce qu'ils ont écrit une prière sur leur petite plaquette. Donc à chaque tour, ils disent la prière. Et ils tournent ça pendant une heure parfois. jusqu'à avoir le bras fatigué, ils disent chaque fois que je tourne, j'ai une prière et donc Dieu va m'entendre très fort parce que ça fait du bruit et ça se répète. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui répète les choses. Quand on a une conversation avec quelqu'un, on ne répète pas sans arrêt la même phrase. Les conversations seraient vraiment horribles. Hein, si on disait, écoute, bonjour monsieur, je suis très content de te voir. Eh ben, moi aussi, je suis très content de te voir. Bonjour monsieur, je suis très content de te voir. Ben, également, bonjour monsieur, je suis très content de te voir. Oui, je pense avoir bien entendu. Bonjour monsieur, je suis très content. Bon, ben voilà, ça ne va pas très loin comme conversation. Et Dieu veut une conversation avec nous, il ne veut pas qu'on lui répète des choses. Et Jésus nous a donc mis en garde. Ce n'est pas parce qu'on répète qu'on va être entendu. C'est pas parce qu'on va être là, Seigneur, je te le demande, je te demande, je te demande, je te demande, je te demande. Dieu n'est pas sensible à ce genre de choses. Le vrai Dieu est notre Père. Il dit, il sait de quoi nous avons besoin. Il est sensible à notre cœur, à notre souffrance, pas à des répétitions. On voit aussi donc que dans Luc 11, où le texte est légèrement différent, on voit bien que Jésus ne s'attachait pas au mot pour mot. Il ne nous a pas demandé de répéter exactement cette prière, mais d'imiter ce modèle, hein, de prier de cette façon. Et en ce sens, ce modèle est très important. Il ne faut pas le négliger non plus, à l'inverse. On a cette tendance à dire « Oh, le Notre Père, jamais !» Ben, c'est dans la Bible, c'est des paroles de Jésus. Et quand on lui dit « Enseigne-nous à prier », Jésus répond « Notre Père !» Donc c'est important. Et surtout, la façon dont cette prière est construite, c'est vraiment assez extraordinaire. Il y a une construction sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est assez fascinante. La première chose qu'on remarque dans cette prière et qui va nous guider, c'est que ça commence avec la relation avec Dieu. Si vous avez le texte sous les yeux, donc Matthieu 6, à partir du verset 9, on voit qu'il est question du nom de Dieu, de son caractère en fait. On voit qu'il est question de son règne. On voit qu'il est question de sa volonté. Et on voit qu'il est question de sa provision à nos besoins. On voit qu'il est question du pardon. Et on voit qu'il est question de la délivrance du mal. Et finalement, on voit qu'il est question de sa gloire, de sa puissance. La prière est une relation avec Dieu. Elle est basée sur une connaissance de Dieu et une relation personnelle avec Dieu. Pour prier correctement, il faut connaître Dieu le plus possible. On ne peut pas finir de connaître Dieu. Dieu est infini. On ne peut pas dire, ah, moi, ça y est, je connais Dieu, je maîtrise tout, je sais qui il est comme ça. Non. On apprend des choses continuellement sur notre Dieu parce qu'il est infini. Mais si on ne connaît pas beaucoup Dieu ou pas du tout, la prière ne va pas aller très loin. Il faut qu'il y ait vraiment cette approche de Dieu. Quand on prie, on va vers Dieu. Or, beaucoup de nos prières sont vers les hommes. Beaucoup de nos prières sont centrées sur nous ou sur ceux qui nous écoutent quand on est en public, ou sont des prières un peu humanistes. Seigneur, qu'il y ait la paix sur la terre, que tout aille bien. Mais la prière que Jésus nous enseigne ici, c'est autre chose. Il y a une relation avec Dieu, un contact. On entre dans la présence de Dieu, et pas de n'importe quel Dieu, du vrai Dieu, justement. Celui dont on connaît le nom, celui dont le règne vient, celui dont la volonté va être faite. On voit qu'il y a deux parties aussi dans cette prière. Il y a la première partie où on parle de Dieu, on dit notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, plus envers nos besoins. Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. Donc vous avez la première partie, Seigneur, avec trois choses, c'est ça qui est intéressant, il y a une construction là presque parfaite, hein, mathématique, on voit la perfection de Dieu dans cette prière. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est envers Dieu. Les trois autres, c'est envers nous. Hein, que donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. Et puis, ça termine avec une louange à Dieu. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et souvent, dans nos prières, il manque la première partie. On a la deuxième partie où on demande des choses à Dieu pour nous. Mais la première partie est absente parfois ou souvent. Ou le fait de rentrer dans cette présence de Dieu, de réaliser qui est Dieu, à qui je prie, et de me mettre en connexion, pour utiliser un terme moderne, avec Dieu, sur la même longueur d'onde que Dieu, sur la même longueur d'onde que sa volonté. C'est là que la prière est exaucée. Mais si Dieu a son plan, son projet, sa volonté d'un côté, et puis moi je suis là, et mes plans, mes projets n'ont rien à voir avec ceux de Dieu, je vais prier dans le vide. Il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette connexion entre Dieu et moi. Moi, je suis d'un côté, Dieu est de l'autre. Encore une fois, imaginez que vous ayez une conversation, vous invitez un ami, viens chez moi, on va passer un moment ensemble autour d'une tasse de thé. Donc, vous invitez votre ami, vous l'installez dans le salon, vous lui versez son thé, et puis vous allez dans votre bureau, vous enfermez avec votre tasse de thé. Puis au bout d'une heure, vous sortez du bureau. Ah, on a passé un bon moment, dis donc. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je t'ai pas vu, tu étais enfermé dans ton bureau, je t'ai attendu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quelquefois, on prie de cette façon, on tourne le dos à Dieu et on prie nos trucs à nous, nos désirs, nos passions, au lieu d'abord de se connecter à Dieu pour ensuite, dans la deuxième partie, dire « Seigneur, voilà mes besoins, voilà ce que je veux prier ». On manque souvent cette partie d'adoration, de louange dans la prière, parce qu'on a cette impression que la louange, ça ne sert pas à grand-chose. Demander, oui. Seigneur, j'ai vraiment des besoins, tu sais. Mais la louange, c'est un peu surfait, quoi. C'est un peu du superflu. Quoi ça sert, la louange? Mais la partie d'adoration, de louange, c'est justement la partie où on s'approche de Dieu. Je reprends mon image d'un ami. Vous dites, ah, tu es mon ami, viens, on va passer un moment ensemble. Et puis, donc la personne vient, elle est contente. Ah, tu sais, je suis content de te revoir, mais moi aussi, je suis content de te voir. Écoute, il faut que tu me donnes 150 €, j'ai besoin de 150 euros. Ah bon, d'accord, je suis ton ami, je te les donne. Merci, bon, ben au revoir, hein, j'étais content de te revoir. Qu'est-ce que vous penseriez d'un ami comme ça? Qu'il n'est pas votre ami, hein? Il vous a appelé parce qu'il était intéressé. Et si on a cette relation avec Dieu uniquement intéressée, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne. Il manque un aspect fondamental de la relation avec Dieu. C'est l'amour qu'on a pour lui, la reconnaissance qu'on a envers lui. Dieu veut cette relation. Lui, il s'intéresse à notre vie. Est-ce que nous, on s'intéresse à lui? Et c'est ça aussi la louange et l'adoration. C'est avoir une véritable relation d'amour avec notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Pas juste une relation guichet, et je viens au guichet, j'ai besoin de ça, hein. Merci, bon, au revoir. Ça, c'est pas la prière que Jésus nous enseigne. Dieu n'est pas un guichet. Dieu n'est pas un distributeur. Hein. On met une pièce et on tire et voilà, on a la bouteille. Dieu est une personne. Il appelle ici notre Père. Il veut une relation avec nous d'amour entre le Père et son enfant. Dans la prière, le modèle de prière que Jésus nous donne, il y a aussi effectivement des thèmes de la vie qui apparaissent et ce sont des thèmes, on remarque, qui sont essentiels en fait. D'abord, notre pain quotidien. Mais ça, c'est nos besoins matériels. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de vivre une vie matérielle. Et Dieu nous a créés avec un corps. On ne doit pas nier le corps, dire « Oh, ce corps, vraiment, oh là là, je veux être un pur esprit. » Non, on n'est pas des purs esprits, on est corps, âme et esprit. Et on a un corps avec des besoins. Et Dieu nous a créés comme ça. Et on doit aussi demander, se tourner vers Dieu pour nos besoins physiques ou matériels. L'autre élément qui vient ensuite, c'est le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est lié aux relations humaines et aux conflits qu'on peut avoir avec les êtres humains. Et en fait, si on fait le compte dans notre vie, on a énormément de relations avec les êtres humains et on a pas mal de conflits aussi. Et le fait de pouvoir apprendre à pardonner, c'est essentiel dans la vie. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne va pas très loin. Et surtout, un chrétien, ici, hein, il ne va pas être pardonné non plus. S'il dit « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Un autre thème qu'il traite, c'est la tentation et le mal. Verset 13. Ça aussi, le chrétien est continuellement, pas en porte-à-faux, mais soumis aux tentations parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas chrétien, un monde qui ne cherche pas Dieu et ne glorifie pas Dieu. Donc, on est étranger et voyageur. Et il y a Satan qui veut nous faire chuter. La première cible de Satan, ce ne sont pas les incrédules, ce sont les chrétiens. Parce que s'il peut nous faire chuter, il a gagné une grande victoire. S'il peut dire à Dieu, regarde ton enfant, il te renie. Regarde ton enfant dans quel péché il se vautre. Tu vois ? Et c'est ce qu'il a dit à Job, enfin au sujet de Job. Hein. Dieu a dit à Satan, regarde Job, mon serviteur, il n'y a pas d'homme plus juste que lui. Et Satan dit, laisse-moi toucher un peu à lui et tu vas voir qu'il va te renier. Satan veut qu'on renie Dieu, veut qu'on s'éloigne de Dieu, veut qu'on sombre dans le péché. Et ça fait partie de ce combat de la vie chrétienne permanent. Il y a des tentations, il y a des pièges, il y a des séductions, et le chrétien doit être vigilant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Mais c'est un thème très important de la vie, hein, cette lutte pour être délivré du mal. La prière, justement, répond à nos besoins quotidiens, à nos difficultés de la vie courante. La prière n'est pas un art poétique. Hein, quand on prie, on ne fait pas de la rhétorique. On n'essaye pas de composer un poème qui va être si beau que Dieu va être touché par la poésie de notre prière. Non, la prière, c'est très concret. Seigneur, j'ai un besoin, j'ai un problème. Prier, ça veut dire demander, hein, tout simplement. Ce qui est touchant dans ce modèle de prière aussi, c'est que, quelque part, ça englobe tout le temps. Il y a le passé, d'abord, quand il dit « pardonne-nous nos offenses, Seigneur hein. ». C'est « pardonne le passé hein. », que je puisse aller de l'avant, que je ne reste pas avec des péchés non pardonnés. C'est important, c'est très important d'être pardonné pour avancer dans la vie. Et puis, le présent, c'est « délivre-nous du mal et donne-nous notre pain quotidien ». Ça, c'est le présent. C'est « maintenant, j'ai besoin d'une délivrance. Maintenant, j'ai besoin de pain. » Et puis, le futur, hein, c'est à toi qu'appartient le règne. Et puis, il dit « que ton règne vienne ». Ça, c'est futur. Et on voit que c'est une prière inspirée par Dieu parce que Dieu est éternel. Dieu, il est dans le passé, le présent, le futur en même temps. Hein. Pour lui, tout est là. Il est l'éternel. Et quand on prie, on s'adresse au Dieu éternel et on entre quelque part dans l'éternité. On entre même dans les lieux célestes, hein, dit la Bible. Nous, nous vivons dans le temps, c'est vrai. Mais quand on s'élève vers Dieu, on quitte un moment ce temps et on rentre dans l'éternité avec lui. Il y a beaucoup de verbes aussi dans cette prière. Hein? Que ton nom soit sanctifié, hein, verbe, ton règne vienne de, que ta volonté soit faite, donne-nous, pardonne-nous, comme nous pardonnons, offensés, ne nous induis pas, délivre-nous. Tout ça sont des verbes. Et ce qui est frappant avec ces verbes, c'est qu'ils sont à quel temps, quel mode ? Impératif. Alors, il y a quand même une part dans cet impératif, une part mesurée de respect, surtout pour les trois premières, où c'est au passif, c'est à l'impératif et au passif en même temps. C'est que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est du passé, hein, passif. Que ton nom, c'est impératif. Oui, que ton nom soit sanctifié, mais on le met au passif. Ce n'est pas « sanctifie ton nom ». Ça, ce serait impératif brut. Hein. Seigneur, sanctifie ton nom, Seigneur. fais ta volonté, Seigneur, règne. Ça, ce serait un impératif absolu. Mais là, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et c'est une forme d'humilité envers Dieu, de dire, Seigneur, c'est ce que je veux, hein, c'est ce que je désire, mais c'est toi qui en es le maître du temps, qui est le souverain, et je ne veux pas te dicter justement ta volonté. Mais les autres verbes, pardonne-nous, c'est direct, hein, pardonne-nous, délivre-nous, donne-nous. La prière de la foi est une demande très sérieuse, c'est-à-dire, ce n'est pas des bons sentiments. Ah, Seigneur, si tu pouvais. Jean-Alain avait fait un message là-dessus, hein, sur la prière qui manque de foi, où on exprime une sorte de doute tout en priant. La prière de la foi demande avec un impératif, quelque part, hein, mais un impératif respectueux, bien sûr. Il y a dans certains milieux chrétiens un irrespect où on commande à Dieu. Hein, il y a des soi-disant évangélistes qui disent « Je commande à Dieu au nom de Jésus qu'il arrive ça et ça », puis ça n'arrive pas en plus. Donc ça, c'est grave, hein, c'est vraiment utiliser le nom de Dieu en vain. Mais la foi est importune. D'ailleurs, si on prend le passage de Luc 11, hein, vous rappelez qu'on a lu ce modèle de prière dans Luc 11, mais la suite, comme par hasard, parle de la prière importune. Luc 11, à partir du verset 5. Juste après le Notre Père, il dit « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains ». Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Oh, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et on ouvre à celui qui frappe. C'est extraordinaire, cette déclaration de Jésus qui nous invite à être importun avec Dieu. Mais encore une fois, importun sans être irrespectueux. Hein. L'importunité, là, c'est littéralement l'absence de précaution, c'est-à-dire... il avait besoin de pain, c'est 3 heures du matin, bon ben, il va pas prendre des gants, il arrive et « Ouvre-moi, j'ai plus de pain, est-ce que tu as un pain à me prêter ?» Et on doit avoir cette attitude de foi avec Dieu. « Seigneur, tu es mon Père, tu as promis, tu as dit que tu voulais exaucer les besoins de tes enfants, les cris de tes enfants quand on est en détresse, quand on est en difficulté. » On ne doit pas juste dire « Oh Seigneur, tu sais, je ne suis que rien. » Et nanana. Non, Seigneur, on doit avoir cette importunité dans la prière, cette foi audacieuse. Hein, si vous avez lu la biographie de Georges Müller, « L'audace de la foi », vous avez une petite idée de ce que c'est. Il demande des choses vraiment audacieuses, mais il est guidé par Dieu. Comment Georges Müller formulait-il ses prières? Comment est-ce qu'il a... Il intercédait et comment il demandait à Dieu. Il le raconte lui-même, il dit, le matin je prenais donc ma lecture biblique, hein, il avait une lecture suivie, et il dit, je méditais chaque parole de Dieu et j'attendais que Dieu m'arrête sur une promesse ou sur une parole. Tant que Dieu ne m'arrête pas, je lis. Je lis, je lis, je lis, je lis. Et puis à un moment, Dieu m'arrête sur un verset et Dieu me parle là et il dit, c'est ça. Pour aujourd'hui, c'est ça. Et donc, il prenait ce verset et il le priait. Seigneur, tu as promis ça, tu as dit ça. Seigneur, tu es ceci, tu es saint. Alors, Seigneur, toi qui es saint, prends soin des orphelins, hein, parce qu'il s'occupait donc des orphelins. Sa prière sortait directement de la Bible, hein, et de la révélation de Dieu à son cœur. C'était pas, il n'avait pas une audace fantaisiste. Hein, c'est pas quelqu'un qui dit, « Oh Seigneur, fais tomber du ciel des baguettes de pain pour les enfants. » C'était pas fantaisiste du tout. Mais c'était quand même audacieux. Parce que s'occuper d'un orphelinat, et même au bout d'un moment, il en a eu plusieurs, sans jamais demander d'argent à personne, sans avoir lui-même une source de revenus. Lui, il était responsable, donc son travail, c'était s'occuper des orphelins. Il n'avait pas d'argent, et il a réussi à nourrir tous ses enfants pendant des années dans des orphelinats. Comment ? Parce que Dieu a touché les cœurs de chrétiens partout, et ils ont commencé à envoyer de l'argent. Certains le faisaient régulièrement, d'autres, un jour, ils avaient... Tiens, ils ont entendu parler dans une église, il paraît qu'il y a un orphelinat à Londres, là. Je vais faire un don. Et ce don correspondait exactement aux leurs besoins à ce moment-là, pour la chaudière ou pour, peu importe, les vêtements. L'audace de la foi. Et nous manquons de cette audace qui croit en Dieu, qui vient à son Père. On ne doit pas être irrespectueux envers Dieu, mais on ne doit pas non plus être timoré. On ne doit pas, je le répète, avoir seulement des bons sentiments. « Ah, ça serait bien si tu pouvais faire ça, Seigneur. » Ça, ce n'est pas la prière. C'est une expression de souhait, de désir. Mais la prière, c'est « Seigneur, tu as promis de répondre à cela. » Et si Dieu ne l'a pas promis, dans ce cas-là, on ne le prie pas. Sachant que Dieu n'a pas promis, je ne vais pas prier quelque chose que Dieu n'a pas promis. Ou alors, si le Saint-Esprit me le met à cœur, « Seigneur, je crois que ça vient du Saint-Esprit, je crois que c'est toi qui me le mets à cœur, et on attend une confirmation dans la parole de Dieu pour prier cette prière, jusqu'à ce que... » Alors la prière du Notre Père commence avec Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et je crois que le plus couramment, quand on prie, on doit prier à Notre Père. Voilà, nous sommes un enfant de Dieu. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus, si nous nous sommes tournés vers lui, nous devons appeler Dieu notre Père. Bien sûr, on peut l'appeler Seigneur, il y a plein de titres, hein, mais pour la première prière, je trouve que ça m'aide beaucoup de dire mon Père, hein, Seigneur, Père, parce que c'est tout de suite cette relation de père à enfant. Dieu n'est pas mon copain. Dieu n'est pas mon débiteur qui me doit quelque chose. Dieu n'est pas mon banquier, hein, à qui je n'adresse des vœux que si j'ai besoin d'argent. Dieu n'est pas mon serviteur non plus. Il est le souverain. Il est mon Père qui est au ciel. C'est dans le psaume 123 que le psalmiste écrit « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. » Les Hébreux, hein, priaient en levant les yeux, hein. Et parfois il levait la main vers le Seigneur dans la prière, parce qu'il savait que leur Père était au ciel. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans les nuages ou que Dieu est dans l'atmosphère. Il y a tellement de satellites qui tournent que ce serait compliqué dans l'atmosphère. Dieu est au ciel, c'est une expression pour dire qu'il est au-dessus de nous. Paul a parlé d'un troisième ciel, on ne sait pas où c'est exactement, hein, ça n'a pas tellement d'importance où c'est, mais c'est cette idée que Dieu est au-dessus et qu'il voit mieux d'où il est, il contrôle mieux, il sait mieux que nous parce qu'il connaît les tenants, les aboutissants, il sait ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Nous, on a notre nez dans la situation, on ne voit pas exactement tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'adresser à notre Père qui est au ciel, parce que lui, il voit tout. En plus, le fait qu'il soit au-dessus, c'est cette idée qu'il domine, qu'il règne. Il est au-dessus de toute chose, il est au-dessus aussi des éléments, il est au-dessus des ennemis, de ses ennemis, de Satan et des anges, des démons. Dieu est au-dessus de tout. Et quand on prie en disant « Mon Père qui est aux cieux », c'est-à-dire « Je monte », jusqu'à son trône, je m'assois avec lui dans les lieux célestes. C'est ça un peu l'idée. Hein, je quitte ma situation terrestre avec mes difficultés terrestres et mon âme monte au ciel, spirituellement parlant. Il ne s'agit pas d'une extase ou d'une sortie de son corps, ou je ne sais pas quoi, qui sont des imitations hein, du Nouvel Âge ou de Satan, mais il s'agit par la foi de rentrer dans la présence sainte de notre Père qui est au ciel. Dieu est esprit Mais il a aussi une existence physique. Il est notre Père et on doit s'adresser à lui de cette façon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On arrive donc à, on va s'arrêter là ce soir, hein. Cette phrase un peu énigmatique, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que ça veut dire, d'abord, quel est le nom de Dieu? Est-ce que c'est Dieu son nom? Alors, en partie, le nom de Dieu, c'est ce qu'on définit par le tétragramme, les quatre lettres, là, consonnes hébraïques. En fait, Dieu s'est révélé d'une façon plus évidente à Moïse, hein, en Exode, lorsque Moïse dit « Quel est ton nom ?» Et Dieu lui dit « Je suis celui qui est. » Et c'est de cette phrase qu'on a tiré le fameux tétragramme. Et donc, le nom de Dieu, c'est « Je suis celui qui est. » Ça, c'est son nom propre, quelque part. Mais, quelque part, ce n'est pas simple, son seul nom, parce qu'il y a plein de noms de Dieu dans la Bible. Des composés, hein, il y a le Tout-Puissant. Qu'est-ce que vous connaissez comme nom? Voilà, El Shaddai, donc Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées. Les armées étant les anges et la création aussi. Elohim, qui est le nom hébreu pour dire le puissant, le Dieu, voilà, celui qui règne, celui qui est. Et en français aussi, qu'est-ce qu'il y a comme nom de Dieu en français? L'Éternel, donc ça c'est... Seigneur, c'est un titre. Alors, voilà, Yahvé Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoit, l'Éternel voit. Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière. L'Éternel me guérit. Hein, l'Éternel... Pardon ? Tzidkenu, oui, notre justice. Il y a toutes ces expressions, hein. Voilà, et autant les dire en français si possible, mais c'est bien de les connaître en hébreu et en français. Tous ces noms, ce sont des révélations de Dieu. Dieu s'est révélé à des hommes, à un certain moment, il y a des femmes, disant « Je suis le Tout-Puissant, je suis le Miséricordieux, je suis le Saint, je suis le Juste, je suis le Rocher, je suis... » Tous ces noms révèlent des facettes de Dieu, hein, et en fait, révèlent Dieu. Et quand il est dit que ton nom soit sanctifié dans la Bible, le nom, c'est pas juste le nom propre, hein, mon nom, c'est la personne elle-même. Il faut pas penser juste au nom, il faut penser à sa personne, son caractère, sa réputation aussi. On le dit encore même en français, hein, vous avez sali mon nom. Ça veut dire vous avez sali, non pas mon nom propre simplement, hein, mais ma réputation. Ou alors, il y a une autre expression aussi, on dit « au nom de la loi, je vous arrête hein, ». Quand on était petit, je ne sais pas si vous avez joué aux cow-boys et aux policiers, hein, « au nom de la loi, je vous arrête ». Qu'est-ce que c'est « au nom de la loi » ? Est-ce que c'est le mot « loi » qui fait quelque chose ? Non, c'est à travers la loi du pays, à travers les autorités qui me sont confiées, je vous arrête. Et le nom de Dieu, c'est ça, c'est son autorité, sa souveraineté, sa personne, son caractère. Donc notre Père a plusieurs facettes de son caractère et nous devons sanctifier son caractère, sanctifier notre Dieu, sanctifier son être, pas juste son nom. Dans le deuxième commandement, il est dit hein, « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas simplement qu'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu. C'est comme ça que les rabbins ont interprété ce commandement, les rabbins, pas tous les rabbins, d'ailleurs, un certain nombre de rabbins, puis ça a fait jurisprudence après, où ils se sont interdits de prononcer le nom Yahvé, hein, le tétragramme. Et donc, à la place de Yahvé, ils disent Seigneur, hein, Adonai en hébreu, ou aujourd'hui, les juifs modernes disent Hachem, hein, le nom, d'ailleurs. Hachem, ça veut dire le nom. Au lieu de, ils ne disent pas Dieu, ils disent pas, enfin si, ils peuvent dire Dieu, mais ils mettent un petit point, ou disent, mais ils ne disent jamais Yahvé ou Jéhovah ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça que Dieu disait, ce n'est pas qu'on est interdit de dire le nom de Dieu. C'est qu'on ne doit pas utiliser Dieu pour des choses vaines. Et c'est un peu ce que veut dire ça, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que la personne de Dieu soit mise à part, soit considérée comme sainte, sacrée, et non pas comme ville, comme mélangée à des choses vaine et vulgaire. Dieu est un être suprême. Dieu est notre Père céleste et saint. Il n'a rien à voir avec le péché, avec le mal. On ne doit pas le mettre à toutes les sauces. Et que ton nom soit sanctifié, c'est une façon de dire que je réalise qui tu es, déjà, et que tu sois connu, que ton nom soit connu comme étant au-dessus de tout nom, hein, comme étant une personne à part, que tu ne sois pas justement connu comme le bon Dieu. Et ça, c'est ça qui est malheureux aujourd'hui, c'est que pour beaucoup, Dieu, c'est le bon Dieu, c'est-à-dire c'est un vieillard barbu et sénile hein, qui embête tout le monde. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est notre Père, l'être le plus puissant, le plus sage. Il est omnisapient. Il sait tout aussi à l'avance. Il règne. D'ailleurs, en étudiant les noms de Dieu, on apprend à connaître qui est Dieu. Et dans notre propre vie, dans nos épreuves, on apprend à connaître qui est Dieu lorsqu'on voit sa fidélité, lorsqu'on voit sa consolation, lorsqu'on voit sa justice, lorsqu'on voit sa grâce. Petit à petit dans la vie chrétienne, avec nos problèmes, nos conflits ou nos attaques, etc., on découvre que Dieu est là, qui nous aime et qui il est vraiment, qu'on peut compter sur lui. Et là, on sanctifie de plus en plus son nom, c'est-à-dire on reconnaît que Dieu n'est pas comme un homme, n'est pas simplement un homme ou un être qui n'a pas d'intérêt, mais il est un être extraordinaire. On n'utilise plus dans ce cas son nom en vain. On ne dit pas à tout bout de champ « Dieu m'a dit » ou « Dieu fait ci » ou « Dieu cela », mais quand on parle de Dieu, on en parle comme quelqu'un qui a une importance sacrée pour nous. On a un peu peur du sacré, parce que là encore, le sacré a été détourné hein, dans certaines religions. Mais le nom de Dieu est saint dans le sens sacré, c'est-à-dire il ne peut pas être mêlé au mal, il ne peut pas être mêlé à l'impureté, il est saint. Et c'est frappant que la prière, le modèle de prière commence avec ça, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que je réalise, Seigneur, qui tu es vraiment. Que je ne mélange pas mes pensées mondaines avec ma prière. Je ne suis pas en train, dans ma prière, de déblatérer les idées qui me viennent au fur et à mesure. Je suis en train de m'adresser au Créateur, au Dieu Saint. Je pense à Moïse hein, et à Josué qui, dans la tente d'assignation, avaient ce privilège de parler face à face avec Dieu. Et lorsque Moïse a rencontré Dieu la première fois, c'était sous quelle forme ? Le buisson ardent. Ce buisson qui brûlait sans se consumer, cette image hein, de la sainteté, de la justice. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé ses chaussures. Hein ? Aujourd'hui, dans certaines religions, on enlève ses chaussures pour prier. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de reconnaître que Dieu est saint. Quand je m'adresse à Dieu dans la prière, je ne m'adresse pas à n'importe qui ou je ne m'adresse pas à une chose imaginaire, je m'adresse au Créateur, au Dieu saint. Et ça peut changer ma prière de réaliser à qui je m'adresse et de désirer de tout cœur que son nom soit sanctifié, c'est-à-dire que Dieu soit vraiment à part. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans notre témoignage dans le monde ? On aimerait que le nom de Dieu soit sanctifié, oui. Que les gens ne se moquent pas de Dieu, qui n'est pas cette fausse image de Dieu, en fait. Hein. Ils ont vraiment une fausse image de Dieu. On aimerait qu'ils aient la vraie image, le vrai portrait. Jésus-Christ est le portrait de Dieu. Hein. On aimerait qu'ils connaissent Jésus-Christ, celui de la Bible, des évangiles. Et c'est ça aussi, prier que ton nom soit sanctifié. Alors, on va s'arrêter là, que le Seigneur se révèle à nous de plus en plus, qu'on le cherche surtout dans la lecture de la Bible et dans la prière. Et que quand on prie, on ne prie plus à la légère, mais que l'on prie avec le poids de ce privilège qui nous est donné de rencontrer le Dieu saint. C'est un grand privilège qui nous est fait. C'est par la mort de Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans sa sainte présence. Souvenez-vous, mettez-vous à la place du souverain sacrificateur le jour du Yom Kippour, qui devait rentrer derrière le voile en tremblant, à mon avis. Ce n'est pas dit dans la Bible, mais je pense que c'était en tremblant. Parce que c'était interdit de rentrer derrière ce voile, le lieu très saint. Mais il se couvrait du sang, comme Dieu l'avait demandé, pour être couvert de ses péchés, et il entrait là. Et nous, nous avons le voile déchiré, nous pouvons entrer, venir, mais attention à ne pas galvauder cette entrée, et à ne pas oublier que nous entrons dans la présence du Dieu saint. On pourrait rechanter « Majesté » parce que je trouve que ça va bien avec le message.